Ce matin, je vais partager sur comment vivre dans deux royaumes. Vous le savez, n'est-ce pas, que nous avons la double nationalité, Patricia et moi. Nous vivons en France depuis 46 ans. Et parfois, je fais des blagues justement sur mon accent. J'essaie de le faire en premier, avant que les autres le fassent. Parce que, en réalité, c'est pour moi quelque chose de très, très frustrant. On arrive en France, donc on avait un autre couple anglais qui est arrivé en même temps que nous. Moi, j'avais déjà étudié le français, donc j'étais l'expert. Et eux, ils démarraient et ils m'ont demandé combien de temps, Christophe, tu penses qu'il te faudra pour parler comme un Français? Et j'ai dit, ben, j'espère après une année que ça ira. Et 46 ans plus tard, c'est pas encore ça. Nous avons appris la langue, nous l'avons relativement bien maîtrisée, au moins pour l'orthographe et la grammaire. Nous avons essayé de nous adapter au style de vie en France, aux coutumes. Nous avons demandé et reçu la nationalité française pour nous identifier encore plus avec la France et dire c'est vraiment notre choix. Nous voulons être comme vous. Nous voulons être comme les Français. Mais l'accent vient toujours me rappeler que je ne suis pas, j'allais dire, je suis pas un vrai, si je suis un vrai Français, mais je ne suis pas un Français de naissance. Nous avons, vous n'avez pas tous la double nationalité, n'est-ce pas? Mais il y a aussi certains d'entre vous qui avez travaillé comme frontalier, que vous avez travaillé en Suisse, et c'est un peu la même chose que vous vivez deux cultures en même temps et de temps en temps en Suisse, vous devez vous justifier en disant « Oui, mais en France, on ne fait pas comme ça. » Et c'est en réalité le défi de tout chrétien, n'est-ce pas? Parce que dans ce sens-là, nous avons tous la double nationalité. Nous sommes citoyens de France et nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et je pense que vous vivez, comme moi, le même problème avec les deux identités qui se chevauchent et des fois qui se confondent. Et des fois, c'est pas le bon qui ressort. Nous avons donc notre fille qui habite à Paris, qui a deux enfants, notre fils qui habite en Angleterre et qui a un enfant, une fille. Notre petite fille en Angleterre ne parle pas français et nos deux petits-enfants à Paris ne parlent pas l'anglais. Donc, vous pouvez imaginer la confusion dans nos réunions de famille. Et des fois, sans nous rendre compte, on est en train de parler à Jean-Marc, notre fils, en français, et puis on dira quelque chose à sa fille en français. Et il nous regardera et on se dit, ah, je me suis trompé de langue. Donc, à Pâques, il y a quelques semaines, nous avons proclamé que Jésus est ressuscité. Ici, c'est le texte que nous allons prendre ce matin. Donc, en disant que Jésus est ressuscité, nous proclamons que aujourd'hui que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire, notre héritage d'enfants de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est au passé. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ressuscités avec lui. Et puis, dans l'Apocalypse, il nous rappelle, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Et donc, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous avons toujours dans cette vie ici-bas ce combat de vivre comme citoyens des cieux sur la terre. Et donc, des fois, nous avons ce problème d'identité. Nous partons cet été, nous allons passer une semaine garder nos petits-enfants en France. Et puis, nous partons une semaine en Angleterre. On va être avec, en gros, avec mon père pour son 101e anniversaire. Mais le comble, même si j'ai gardé mon accent, pour aller en Angleterre cette année, nous avons besoin d'une autorisation. On a dû payer pour pouvoir entrer en Angleterre. Vous vous rendez compte? Donc, pour nous, en tant que chrétiens, nous avons toujours à affirmer notre nouvelle identité. Nous avons à gérer l'ancienne et la nouvelle en même temps. Et si vous deviez présenter des justificatifs maintenant, qu'est-ce que vous présenteriez pour le royaume des cieux? Vous avez votre acte de naissance du royaume des cieux, certificat de baptême peut-être. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est pas un papier, n'est-ce pas? C'est des vies transformées, que nos vies puissent montrer que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que nous ayons cette ressemblance au Père Céleste. Donc nous allons regarder notre double identité. Donc, en Christ, d'abord, nous avons une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est la partie belle de l'histoire, n'est-ce pas? Sauf que nous savons tous que notre ancienne nature a laissé des traces. Des fois, non seulement des traces, mais des taches sur notre vie. Et Paul nous rappelle, on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Et Paul nous parle là, et dans notre texte de Colossiens, de cette intelligence, ce renouvellement de l'intelligence. Parce que nous avons besoin de faire les bons choix. J'ai mon certificat de naturalisation. J'ai mon passeport français maintenant, mais j'ai toujours besoin de décider sous quelle identité je vais me présenter. Moi maintenant, puisque j'ai plus de passeport anglais, mais nous devons toujours décider, est-ce que je veux être vu comme citoyen de ce monde ou citoyen du royaume des cieux. Donc déjà, quelques choix. Si donc, notre texte de Colossiens commence, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ. Donc le premier choix, c'est le choix de notre identité. Et c'est une offre que Jésus nous fait et pas une obligation. Quand il nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. à tous ceux qui l'ont reçu. Nous ne sommes pas chrétiens automatiquement, nous ne sommes pas chrétiens parce que nos parents l'étaient, nous sommes chrétiens parce que nous avons reconnu notre besoin d'un sauveur en Jésus-Christ. Cette offre est faite à tout le monde, mais il y a des conséquences si on le refuse, puisque si on le refuse, on n'a pas ce salut en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de textes qui en parlent, mais juste celui-ci dans Jean 3. Donc c'est Jean 3, on connaît tous Jean 3, 16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'en quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est l'offre. Mais à la fin du même chapitre, il nous dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Nous avons besoin de faire le bon choix en acceptant Jésus-Christ. Et pour ressusciter avec lui, nous devons d'abord mourir avec lui. Sans mourir, c'est difficile de ressusciter, n'est-ce pas? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc, il y a d'abord la mort physique, et donc pour la plupart d'entre nous, ce sera de ce moyen-là qu'on fera le transfert définitif dans le royaume des cieux. Et donc là, c'est le matériel, le physique. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Et puis il y a la résurrection spirituelle aussi. Donc, Romains 6, « Puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Et donc, pour régner dès maintenant, quel est notre choix? Ça ne signifie pas que nous sommes automatiquement une nouvelle personne. Nous sommes potentiellement. Mais ce n'est pas simplement le fait d'être chrétien qui va en soi m'empêcher de tricher avec les impôts, m'empêcher de mentir, m'empêcher de répondre de manière inappropriée à un frère, une sœur. C'est quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous donnons la priorité à l'Esprit de Dieu dans notre vie, quand nous remportons la victoire sur notre vieille nature. Et puis, dans Romains 6, toujours, « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. » Des choix à faire tous les jours pour vivre notre identité d'enfant de Dieu. Et ceci est une question de priorité. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, toujours notre texte de base, recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui appartiennent à la terre. Recherchez les réalités d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Et comme Jésus nous dit, La fin du sermon sur la montagne aussi. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. J'ai peut-être déjà raconté, je me souviens, peu après ma conversion, donc j'avais un ami qui était revenu au Seigneur suite à ma conversion et il était dans une autre église. Il m'a raconté qu'il est sorti avec l'un des anciens. Ils étaient en voiture à Londres. Et cet ancien, c'était aussi un homme d'affaires qui avait plutôt bien réussi. Mais ce qui m'a frappé, mon ami, c'est que en circulant à Londres, en passant dans une rue avec des maisons plutôt aisé, il a dit à mon ami, j'espère un jour pouvoir me payer l'une de ces maisons-là. Rien de mauvais en soi, sauf que ça a frappé mon ami. Il dit, ben, ces priorités sont des priorités matérielles et pas spirituelles. Et je me dis, combien est-ce que nous pourrions nous trouver dans la même situation? Nous avons nos ambitions terrestres aussi, mais que ce soit les ambitions célestes qui aient la première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste. Quelles sont nos préoccupations premières? Combien souvent nous disons, j'aimerais bien, mais j'ai juste pas le temps. Ce n'est pas faux, parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous trouvons toujours le temps pour faire ce qui est le plus important à nos yeux. Il y a plein de choses que nous ne faisons pas parce que elles n'étaient pas prioritaires. Nous venons de finir la période des soldes, n'est-ce pas? Je me suis dit, et Patricia m'a rappelé aussi, avant les soldes, faut que tu t'achètes des sandales, faut profiter peut-être des soldes. Ben, les soldes sont finis et je suis pas encore allé dans les magasins pour trouver. Moi, les magasins, ça n'a jamais été très haut sur ma liste de priorités. Mais combien souvent nous optons pour de mauvais choix, n'est-ce pas? Parce que les mauvais choix sont plus hauts sur notre liste de priorités que les bons. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? La famille? Le travail? Une sortie? De bonnes et de belles choses? Une série télévisée? On m'a parlé de l'autre jour de quand il y a des championnats à la télé et que ça tombe le soir du groupe de maison. Nous avons au moins une influence de là pour dire bon, je vais pas pouvoir me justifier donc j'y vais quand même, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix, mais les priorités d'un chrétien, sa vision céleste, ces priorités-là doivent influencer et grandement influencer nos priorités ici-bas. Je vous mets une liste qui n'a rien de spécifiquement chrétien, c'est une liste que j'ai trouvée sur Internet sur la question de fixer de bonnes priorités. Commencez. Restez calme. Planifiez vos tâches. C'est important, c'est pas important. Concentrez-vous sur une seule chose. Éliminez les distractions. Décomposez les tâches en étapes. Restez cohérent chaque jour. Et le dernier qui est un peu moins recommandable peut-être, agissez sans trop réfléchir. Mais c'est dans le sens de trop réfléchir, parce que des fois, en réfléchissant beaucoup, on trouve des moyens de justifier nos mauvais choix, n'est-ce pas? Donc, agissez dans la lignée de tout le reste pour faire les choses les plus importantes. Et puis, il nous faut une intelligence renouvelée. Donc, moi, je suis... quand je me suis converti, j'avais été athée pendant des années et puis je suis venu à la foi. C'était extraordinaire. Sauf que après, j'ai eu des doutes et je me suis dit, est-ce que j'avais eu raison avant ou après? Et je savais pas trop où j'allais. Et j'ai pris la Bible et j'ai colorié des versets sur toutes sortes de sujets. J'ai pris beaucoup sur la résurrection de Jésus pour me fortifier dans la foi et pour dire ce que je crois maintenant. Ce n'est pas simplement des idées, c'est basé sur des faits historiques, ça tient la route. Et c'est l'intelligence dans ce sens-là qui est venue au secours de ma foi. Et je pense que, en tant que chrétien, nous ne devrions jamais mépriser l'intelligence. Des fois, nous disons, ben, le Saint-Esprit me conduira. Oui, mais réfléchissez quand même. Cherchez, quand le Saint-Esprit vous conduit, cherchez à savoir qu'en dit la Bible, cherchez à savoir pourquoi le Saint-Esprit vous conduit sur ce chemin-là. L'intelligence, c'est une aide, comme les Béréens qui cherchaient chaque jour dans les Écritures, si ce qu'on leur avait dit était juste. Donc, plusieurs versets sur l'intelligence. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. L'intelligence. Mais l'intelligence éclairée par la foi, et l'intelligence en accord avec la foi. Et soyons attentifs de ne pas justifier des actes non intelligents en disant que c'est Dieu qui nous conduit. Si nous pensons que Dieu nous conduit sur un chemin qui n'est pas le plus logique, cherchons à savoir pourquoi. Cherchant à justifier avec notre intelligence ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de faire. Et que nos pensées d'en haut orientent nos prières d'en bas. Et que nos prières embrasent nos pensées d'en bas. Nous avons tendance à croire davantage ce que nous voyons de nos yeux, n'est-ce pas? Comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Si je ne vois pas la marque des clous, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. Et puis nous avons aussi dans l'évangile de Jean 20, des gens qui demandent des miracles pour pouvoir croire. Pourtant, Paul souligne qu'en tant que chrétien, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Les priorités d'en haut. Et la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors aujourd'hui, à Popin, qu'est-ce que nous avons de visible? Nous avons un beau bâtiment, repeint à l'intérieur et prochainement à l'extérieur aussi. Donc, nous avons une longue histoire et le passage du fils du pasteur Dubois nous le rappelle. Vous avez des anciens et des diacres. Vous avez un technicien. C'est pas toutes les églises qui en ont. Vous avez un groupe de louanges. Il y a beaucoup de belles choses qui sont matérielles et spirituelles. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu veut pour son Église, c'est une Église qui cherche les choses d'en haut, qui met l'invisible avant le visible, le spirituel avant le matériel, tout important qu'il soit. C'est plutôt l'ensemble de ses membres, chacun pour sa part, c'est les personnes qui sont plus importantes pour Dieu que le matériel. C'est le discernement de savoir comment va chacun. C'est de voir et répondre aux besoins autour de nous. Et gloire à Dieu, cela se fait, n'est-ce pas? Mais si chacun de nous, nous étions sensibles aux besoins des chrétiens à nos côtés ou devant et derrière nous, et que nous y répondions, cela irait sûrement encore mieux, n'est-ce pas? Alors, pour conclure, assumons notre rôle. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée avec Christ en Dieu, c'est une vie protégée et sécurisée. Être caché en Dieu suggère que la vraie identité, le destin du croyant, c'est être en sécurité, conservé sous la protection divine. Nous n'avons rien à craindre, n'est-ce pas, si nous sommes en Christ. Caché avec Christ en Dieu, c'est une vie qui n'est pas encore pleinement révélée. Et ça, c'est quelque chose que je vois toujours et que un problème, je pense, dans l'Église en général, c'est que nous avons trop l'idée que quand nous devenons chrétiens, tout est accompli. Tout est accompli en Christ, oui, mais tout n'est pas encore accompli en nous. Dieu est encore en train de nous transformer, n'est-ce pas? Et quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes de santé et que nous prions pour la guérison, et c'est très bien, mais nous sommes encore dans ce monde-ci. Et le plein épanouissement du royaume ne viendra que ou à notre mort ou quand le Seigneur reviendra nous chercher. C'est là où tout sera parfait. Et c'est pas avant. Donc ne soyons pas découragés si nous avons encore des luttes et des combats, mais à nous de remporter la victoire dans ces situations, à nous de penser d'abord aux choses d'en haut, à nous de fixer des priorités pour les choses d'en haut et non pas les choses sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre passera, mais ce qui est éternel, c'est auprès de Dieu. Une vie cachée avec Christ en Dieu, une vie d'union spirituelle, c'est l'union du croyant avec Christ. Et notre vie, vraie vie, est intimement liée à notre relation avec Dieu en Christ. Pour ça, nous avons besoin de passer du temps tous les jours, n'est-ce pas? Des fois, c'est difficile. Il faut de la discipline pour mettre du temps de côté pour lire la parole de Dieu et prier. Mais si nous ne le faisons pas, nous donnons encore la priorité aux choses de la terre au lieu des choses du ciel. Et le dernier, votre vie cachée avec Christ en Dieu, c'est une vie qui transcende le visible. Et la vie dont parle Paul dans ce texte est une réalité spirituelle qui dépasse ce qui est apparent aux yeux de ce monde. Quand nous sommes en union avec Christ, quand nous marchons avec lui, quand nous sommes en communion avec lui, nous pouvons faire face à toutes sortes d'épreuves, de défis, et nous pouvons remporter la victoire, puisque nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. J'ai parlé au début de ma double nationalité. Je reste anglais, et il y a des traits évidents de mes origines. Donc, mon accent, j'ai aussi, vous avez remarqué, les oreilles du roi Charles, qui sortent un peu trop de ma tête. Hein. Quand j'étais ado, c'est pour ça que j'avais les cheveux très longs, parce que j'essaye de couvrir mes oreilles. Hein. Bon. Chrétiens, nous avons notre double identité aussi. Notre vieille nature et notre nouvelle nature. Et nous sommes appelés à vivre dans ce monde avec notre nouvelle nature. Que cette nouvelle nature prenne de plus en plus de place et que la vieille nature, nous puissions nous en débarrasser de plus en plus. Dieu nous appelle à nous attacher aux réalités d'en haut. Il nous équipe pour cela. Et ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Mais tout dépend de notre orientation, de nos priorités et de nos choix. Faisons les bons choix. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Te bénissons, Seigneur, pour cette gloire que tu prépares pour nous. Te bénissons, Seigneur, parce que tu nous en fais déjà cadeau ici-bas. Et Seigneur, nous voulons apprendre à vivre en tant que citoyens des cieux et de moins en moins comme citoyens de cette terre. Transforme-nous, Seigneur, en te contemplant, que nous devenions de plus en plus des reflets de ta gloire dans ce monde, Seigneur. Fortifie-nous, équipe-nous, transforme-nous pour ta gloire. Amen.